Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Dans l'émission de cette semaine, nous avons choisi d'aborder un sujet extrêmement douloureux et en même temps d'actualité. C'est pas toujours le cas, mais il nous a semblé important d'évoquer le sujet des fusillades et des tueries de masse aux États-Unis suite au drame qui a fait 21 morts à Uvalde. Et nous avons donc la chance d'avoir aujourd'hui un spécialiste de l'histoire des États-Unis. Bonjour André Caspi.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste de l'histoire des États-Unis, auteur de nombreux ouvrages. Une fois de plus, aux États-Unis, on a eu un drame dans cette petite ville du Texas, Uvalde. Un adolescent de 18 ans, nommé Salvador Ramos, a tué 19 enfants dans une école primaire, ainsi que deux enseignants, avec un fusil d'assaut qu'il avait acheté pour son 18e anniversaire. Cette fusillade intervient après de nombreuses autres fusillades, puisque depuis le début de l'année 2022, on est déjà à une trentaine de fusillades. Et l'année dernière, en 2021, il y avait eu plus de 70 fusillades. Et depuis 2008, on est à près de 500 événements. Il y a une répétition de ces événements. Pour nous, c'est difficile à comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Comment vous pouvez nous expliquer ça, vous qui connaissez si bien le contexte américain ?
Écoutez, là, vous me posez une question difficile parce que il est évident que pour expliquer tout cela, il faudrait disposer de beaucoup de temps. Mais enfin, pour aller à l'essentiel, disons que si vous regardez la Constitution des États-Unis, une Constitution qui depuis 1787 n'a pas changé, elle a simplement été amendée plusieurs fois, notamment les 10 premiers amendements qui datent de 1791. Or, le deuxième amendement nous dit ceci, une milice bien ordonnée étant nécessaire à la sécurité d'un État libre, le droit qu'a le peuple de détenir et de porter des armes ne sera pas enfreint. Ce qu'il y a d'obscur dans cet article, c'est le premier membre de la phrase, une milice bien ordonnée. Ça voudrait donc dire que les individus ne sont pas autorisés à porter des armes, sauf lorsqu'il s'agit de défendre éventuellement leur État ou la patrie en général. Or, en 2008, la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême, c'est l'instance fédérale la plus élevée dans le monde judiciaire, et c'est celle qui est faite pour interpréter les lois, éventuellement pour interpréter les amendements à la Constitution. Or, la Cour suprême, en 2008, a défini le deuxième amendement de la manière suivante, c'est-à-dire que les citoyens américains sont autorisés à détenir et à porter une arme. Autrement dit, l'amendement, d'après la Cour suprême, accorde à chaque individu le droit de détenir et de porter, au sens strict du terme, des armes. C'est un droit individuel qui n'a rien à voir avec l'armement de la milice. Voilà l'interprétation qui a été donnée en 2008. Alors à partir de là, on peut en effet penser que le Congrès dispose, le Congrès, c'est-à-dire les deux chambres législatives, dispose de moyens pour limiter les achats d'armes ou éventuellement les détentions d'armes, compte tenu bien sûr du deuxième amendement et de son interprétation. Mais il y a un autre élément qu'il faut faire entrer en ligne de compte, c'est que aux États-Unis, c'est un régime fédéral, c'est-à-dire qu'au fond, chacun des États dispose aussi d'une certaine liberté de manœuvre dans le cadre d'ensemble. Donc, et à l'intérieur de chaque État, on pourrait même dire que les villes ou les comtés peuvent à leur tour prévoir des dispositions qui interprètent d'une manière ou de l'autre ces différents éléments que je viens de citer. Si on prend par exemple le cas de l'État de New York, l'État de New York a une législation qui est plutôt restrictive en matière de détention d'armes, mais la ville de New York a une législation qui est encore plus restrictive que l'État. Donc vous voyez, c'est toute une hiérarchie, toute une pyramide qui est extrêmement compliquée à comprendre et extrêmement compliquée à modifier. Et par conséquent, c'est ce qui explique que depuis déjà bien des années, il y a des débats pour savoir comment faire pour limiter la détention des armes et qu'on n'arrive pas à trouver la solution qui puisse éviter les fusillades.
Alors, est-ce qu'un des, une des difficultés, finalement, de trouver des voies et des moyens pour atténuer ou en tout cas mieux contrôler la circulation des armes aux États-Unis et en particulier faire qu'elles ne tombent pas dans des mains de gens ayant des antécédents judiciaires, psychiatriques ou même des très jeunes, c'est pas que c'est devenu un sujet très politisé, au sens où on a l'impression que dans ces batailles culturelles que se livrent la société américaine, il y a le droit à l'avortement, il y a cette question des armes, il y a quelques autres sujets qui sont devenus des points de forte crispation entre les républicains et les démocrates, et finalement on a l'impression qu'il y a un réflexe un peu pavlovien de défense fétichiste d'un côté d'une grande partie des républicains avec aussi des lobbies très organisés et puis de l'autre des démocrates qui prennent la parole, s'expriment de manière forte pour dire vous ne pouvez pas, on peut pas continuer le statu quo, il faut faire quelque chose. Or le constat c'est que eh bien dans les instances politiques fédérales ou étatiques, eh bien il ne se passe pas grand chose.
Non, vous avez je crois prononcé le mot le plus important qui est le mot lobby, c'est-à-dire le mot groupe de pression. Il est évident que les partis politiques sont sensibles aux groupes de pression. Alors il y a un groupe de pression qui est celui de la National Rifle Association qui réunit les amateurs de tir sportif, les chasseurs, tous ceux qui veulent défendre la liberté de détenir une arme et bien entendu auparavant d'en acheter. Tout cela fait que la NRA exerce une puissance particulière sur le monde politique. Elle est beaucoup plus forte du côté des républicains que du côté des démocrates. Il y a aussi des lobbies anti-gun, c'est-à-dire des lobbies qui sont hostiles à l'achat, à la détention des armes. Mais les lobbies anti-gun sont beaucoup plus faibles que la NRA, c'est-à-dire que la NRA dispose de grandes ressources, dispose de relations qui sont efficaces, donc tout cela fait que la NRA parvient beaucoup plus à influer sur les républicains que sur les démocrates. Mais il ne faut pas oublier quand même que beaucoup d'Américains considèrent, quelles que soient leurs affiliations politiques, que la liberté individuelle doit être placée au sommet des libertés politiques. Et qu'en conséquence, on pourrait évidemment imaginer une des lois qui limite l'achat des armes ou qui limite la détention des armes, mais à condition que cela ne brime pas les libertés individuelles. Et les libertés individuelles sont décrites dans les amendements à la Constitution et dans les interprétations que la Cour suprême peut en donner. Donc tout ça en somme fait qu'il y a véritablement une bataille politique, c'est-à-dire républicain contre démocrate, démocrate contre républicain, mais aussi derrière cette bataille politique, il y a des divergences idéologiques qui dépassent largement les affiliations politiques et qui vont au fondement même de la démocratie américaine.
Alors, est-ce qu'on n'est pas justement là dans une forme de fossé qui se creuse entre les Américains, finalement, au sein même de la société américaine, puisque on a vu, notamment avec l'élection de Donald Trump, sur ces sujets-là, en particulier, une très grande polarisation. Et alors que dans d'autres moments, on va dire, politiques, la démocratie américaine, avec son système de pouvoir, de contre-pouvoir, arrivait à trouver des voies et des chemins pour traiter des sujets difficiles. Aujourd'hui, on a le sentiment d'une forme de, je sais pas si on peut appeler ça de la régression, mais en tout cas d'une forme de blocage, avec aujourd'hui des difficultés à retrouver entre démocrates et républicains des chemins de consensus, y compris face à des crises graves, parce que on peut quand même considérer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que la réitération et la multiplication de ces tueries fait quand même que ça devrait poser un vrai problème à la société américaine. Ça relève un vrai malaise.
Je partage entièrement votre point de vue. C'est quand même une caractéristique de la société américaine et une caractéristique qui n'a rien d'enviable, qui n'a rien non plus que l'on puisse la soutenir, c'est évident. Mais ce qu'il faut bien retenir, je crois, c'est qu'il y a une évolution de l'opinion. C'est-à-dire, si vous vous reportez aux années 1960-1970, une majorité d'Américains étaient favorables à une législation qui aurait limité, dans toute la mesure du possible, les achats d'armes et, bien sûr, leur utilisation. Mais les choses ont changé au début du 21e siècle. Alors, c'est difficile à expliquer. Est-ce que ça tient à une insécurité croissante? Est-ce que ça tient à une opposition forte entre différents éléments de la société américaine? Peut-être, mais vous avez eu raison tout à l'heure d'évoquer les fusillades qui ont tragiquement illustré l'histoire récente des États-Unis, car ce qui s'est passé au Texas il y a quelques jours, s'était déjà passé à Sandy Hook dans le Connecticut en 2012, où il y a eu l'assassinat dans une école élémentaire de 22 élèves plus 6 enseignants. C'est-à-dire que là, il y a déjà eu, en somme, des assassinats de masse. Et après Sandy Hook, il y a eu des lycées, des églises, une synagogue, différents lieux qui ont été tragiquement marqués.
Un supermarché aussi.
Oui, notamment juste avant Uvalde, il y a eu la fusillade de Buffalo.
Oui.
Donc ça veut dire que vous avez là, en somme, quelque chose qui doit alerter les Américains. Alors les Américains, ou du moins la plupart d'entre eux, vous répondent que, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'armes. On ne sait pas très bien d'ailleurs exactement combien. On dit à peu près 200 millions, 300 millions d'armes. Enfin bref, parce que on peut détenir une arme, mais on peut aussi en détenir plusieurs. Hein.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a à peu près, disons, un bon tiers des Américains qui détiennent des armes. Mais ça ne veut pas dire qu'un bon tiers des Américains sont des meurtriers. Il y a des tireurs sportifs, il y a des chasseurs, il y a des amateurs tout simplement d'armes à feu, mais il y a une sorte de fascination aujourd'hui à l'égard de l'arme à feu, et je vais vous en donner un exemple précis. Dans certains États, il y a des foires aux armes, c'est-à-dire au fond, c'est une exposition dans un grand hall de différentes armes qui peuvent être des armes semi-automatiques comme les AR-15, qui peuvent être des pistolets, des revolvers, et aujourd'hui d'ailleurs même des petites armes qui sont destinées aux femmes, parce que la clientèle féminine est en train de se développer. Alors pourquoi? Parce que c'est une manière de se protéger, c'est une manière d'avoir de quoi ne pas attendre l'intervention de la police. C'est une manière, en somme, de conserver sa liberté individuelle, et cela veut dire que on est loin de réaliser les dangers que tout cela peut provoquer. Mais j'ajouterai un dernier point, c'est que, en fin de compte, il y a à peu près 40 000 ou 45 000 morts par arme à feu chaque année aux États-Unis. Les deux tiers sont des suicides. Les deux tiers sont des suicides. Hein. Mmh. Et il y a bien sûr les armes à feu dont se servent les gangs. Et on sait que les gangs sont extrêmement nombreux aux États-Unis. Et finalement, ces fusillades, ça ne correspond qu'à 3% des morts par arme à feu. Alors évidemment, c'est beaucoup, d'autant plus que c'est spectaculaire. Mais cela vous dire quand même que le problème n'est pas simplement les fusillades, c'est aussi le fait que l'on détienne des armes et que l'on souhaite aux États-Unis, que l'on souhaite pour beaucoup d'Américains continuer à détenir des armes.
Et on comprend bien, en vous écoutant, que ça renvoie aussi à l'état de la société américaine dans lequel le niveau de violence est probablement plus élevé que dans la plupart des sociétés européennes. Et donc, on a du mal, nous.
La culture américaine est fondée en grande partie sur la violence. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand nous allons au cinéma et que nous regardons les films de John Ford, enfin des westerns en général, nous ne sommes pas choqués par la violence. Nous acceptons volontiers, sur l'écran, bien sûr, nous acceptons volontiers que les uns tuent les autres, parce que les bons triomphent. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de fascination de la violence aux États-Unis qui est beaucoup plus forte qu'ailleurs, mais il faut reconnaître malgré tout que nous partageons un peu au moins, un peu beaucoup même, la complicité de ces Américains envers les armes.
Oui, et d'ailleurs, certains experts disent que on a effectivement beaucoup de débats sur la folie américaine autour des armes, mais certains disent que finalement, même en France, on n'est pas dans une législation aussi restrictive et protectrice qu'on pourrait le croire, et que c'est pas si difficile que ça de se procurer une arme en France, y compris arme.
Ça c'est possible, parce que personnellement, je n'ai pas cherché à me procurer une arme, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement en France, mais j'ai quand même l'impression que, en effet, il y a beaucoup d'armes qui circulent en France. Alors, c'est quand même plus contrôlé qu'aux États-Unis, mais il n'empêche que vous ne pourrez pas empêcher des gangs en France de détenir des armes et de s'en servir autant qu'ils le peuvent.
Merci beaucoup André Caspi d'avoir accepté de répondre à nos questions sur cette ce sujet un petit peu brûlant quand même, parce que c'est une actualité récente mais aussi récurrente des tueries de masse et des fusillades, et en particulier ces événements tragiques et bien de jeunes souvent isolés, en perte de repères, qui vont et bien tirer dans une école ou dans un lieu public. C'est vrai que pour nous ça reste quand même assez choquant, et on aime essayer de comprendre quand même ce qui se passe dans cette Amérique qui nous fascine mais qui parfois nous terrifie. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes historien, expert de l'histoire des États-Unis et auteur de nombreux ouvrages. On vous remercie encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions.
À bientôt.
À très bientôt. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et j'ai le plaisir de recevoir, donc, pour cette deuxième partie d'émission consacrée aux tueries de masse et aux derniers événements des États-Unis, et en particulier la fusillade de la ville texane d'Uvalde. Je reçois Jean-Éric Brana. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences sociales et politiques à l'Université Paris 2 Assas, également spécialiste des relations internationales et de l'histoire des États-Unis, et auteur de plusieurs ouvrages, et plus récemment une biographie de Kamala Harris, l'Amérique du futur, et une autre de Joe Biden, dont vous aviez d'ailleurs prédit la victoire aux élections présidentielles. Jean-Éric, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'on a le sentiment d'une augmentation de la fréquence de ces fusillades, qui est corroborée d'ailleurs par des données statistiques, puisque en 2019, on a eu 52 fusillades recensées. En 2021, on était à 73, et depuis le début de l'année, on est déjà à 38, puisqu'il y a eu, il y a quelques jours à Buffalo, un tueur qui a tiré sur une foule dans un supermarché. Et là, évidemment, on a tous été stupéfaits, sidérés par cette attaque qui a fait, rappelons-le, 21 victimes, 19 enfants et deux enseignants à Uvalde.
Oui, c'est ça. En effet, c'est vrai que le nombre est croissant. on a envie de dire exponentielle, hein, c'est depuis que la loi sur les armes d'assaut, les armes de guerre est tombée, cette loi qui avait été fait voter par Joe Biden en 1994, qui avait une durée de vie de 10 ans, et depuis 2004, c'est une explosion sur les tueries de masse. Alors, la corrélation est assez évidente, hein. C'est l'accès aux armes qui fait qu'il y a une multiplication des tueries de masse. D'ailleurs, le Canada vient de voter une loi pour récupérer les armes de guerre, et les États-Unis sont dans une impasse puisqu'ils sont dans l'incapacité de faire la même chose. Donc on se dit qu'ils sont condamnés à avoir encore et encore des tueries de masse dans l'avenir.
Alors on a le sentiment d'une forme d'impuissance, en particulier du pouvoir en place, hein, du président américain. Alors on sait que c'est compliqué aux États-Unis parce que il y a une grande partie de la législation qui ne relève pas de l'État fédéral, mais de chaque État. Et chaque État peut avoir, d'ailleurs, sur cette question des armes, une législation différente, puisque on a vu, par exemple, que dans le Vermont, on avait durci la possibilité d'avoir accès aux armes en portant l'âge à 21 ans. Hein. Je rappelle que l'assassin de Uvalde avait 18 ans et qui s'est procuré deux armes d'assaut de manière extrêmement simple dans le commerce. Et effectivement, dans le Vermont, on a décidé que désormais l'âge légal était de 21 ans. Et d'ailleurs, ça a tout de suite fait baisser le nombre de faits de fusillades dans cet État.
Et en même temps, c'est une question bigrement complexe parce que ça dépend de quoi on parle quand on parle de législation sur les armes. Si on parle du fait d'avoir le droit de posséder une arme, c'est un amendement. Ça veut dire que ça fait partie de la Constitution. C'est même considéré par les Américains à 80% comme une liberté fondamentale qu'il faut défendre au même titre que la liberté de la presse ou le droit de manifester. Après, c'est vrai que les démocrates en particulier demandent des législations pour durcir ce droit, pour essayer de reculer l'inéluctable. Alors, comme dans le Vermont, il y a souvent cette question de l'âge limite, ou l'âge plancher pour avoir une arme. De monter à 18 à 21 ans au niveau fédéral paraît impossible aujourd'hui. Alors, les États le font ou ne le font pas. Il y a 25 États, effectivement, qui ont pris cette décision. On parle également d'une recherche des antécédents de façon généralisée. Et l'État fédéral, là encore, est bien impuissant, donc ce sont les États qui agissent. Il y a également l'idée des lois drapeau rouge qui permettent de dénoncer quelqu'un dans sa famille ou autour de soi, un voisin qui serait dangereux pour qu'on lui retire ses armes, au moins temporairement, en espérant que ça pourra permettre de laisser passer l'orage et d'éviter une tuerie si jamais c'était un coup de sang. Mais en réalité, si vous regardez ces mesures l'une après l'autre, ça reste quand même des mesurettes parce que ça laisse quand même la possibilité d'avoir accès à une arme, y compris, j'insiste bien, à une arme de guerre. Les AR-15, les AK-47 sont les armes les plus impliquées dans les tueries. Et c'est bien ça que la société dénonce. Là aussi, les Américains sont très partagés. Ils sont 50% à souhaiter qu'on les interdise, mais ils sont également 50% à souhaiter qu'on n'y touche pas.
Alors justement, c'est vrai que on a commencé à entendre tous ces débats-là en disant qu'effectivement, quand le second amendement a été écrit, on parlait de mousquets. On parlait d'armes à un coup ou à deux coups. Là, effectivement, à l'époque, il n'était pas question d'armes automatiques, semi-automatiques, qui peuvent faire d'énormément de dégâts en très peu de temps. On l'a vu à chaque fois qu'il y a eu des jeunes ou des moins jeunes qui se sont procurés des armes pour faire ensuite ces massacres. De l'autre côté, on a aussi un lobby très puissant dans la société américaine qui nie totalement que la circulation des armes, le port d'armes, soit responsable de ces massacres, qui parle de la lutte entre le bien et le mal, qui parle de cas isolés, de problèmes psychiatriques, mais jamais ils ne veulent qu'on mette la responsabilité de la circulation en masse des armes comme cause première de ces massacres. On pense notamment à la NRA.
Il faut appeler un chat un chat. La NRA travaille pour l'industrie de l'armement, qui n'a qu'une seule idée, c'est de vendre des armes. Donc, bien entendu, avec les millions de dollars qu'ils récupèrent de ces différents fabricants, ils ont poussé petit à petit une idée politique qui était que chacun avait un droit individuel à une arme et non pas un droit collectif à une arme, comme c'était voulu au moment de la Révolution. Alors, c'est vrai qu'au moment de la Révolution, il y a eu le fait qu'il n'y avait pas de police. Donc on considérait que chacun devait pouvoir défendre sa famille, ses enfants, sa femme, ses biens. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation-là du tout. Et c'est vrai que le fait que la NRA pousse sur une volonté politique forte dans le cas de cet individualisme et qu'elle est relayée par le Parti républicain, il faut bien le dire, aujourd'hui, fait qu'il y a une véritable impasse dans la société et qu'on n'arrive plus à passer aucune loi d'envergure, en tout cas sur le plan fédéral. Il y a des niches dans certains États, mais ça reste que dans certains États.
Alors, rappelons que la NRA, c'est environ 400 à 450 millions de dollars de budget annuel, près de 4,5 millions d'adhérents et plus évidemment des sympathisants. Hein. Il y a dedans des chasseurs, des gens qui font du tir sportif, enfin tous les gens qui sont, on va dire, les plus acharnés ou en tout cas qui utilisent, qui ont envie d'utiliser des armes un petit peu de manière plus facile. Mais où en est la NRA dans son histoire? Parce que c'est finalement un lobby assez récent, je crois que c'est les années 70. Et puis il y a eu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont sur une reprise forte d'influence ou est-ce qu'ils sont plutôt en perte de vitesse?
Alors la NRA, c'est une construction de 1870. Rappelons-le, c'est à la fin de la guerre civile que des anciens militaires se sont groupés pour enseigner à d'autres anciens militaires ou à des gens qui se retrouvaient avec beaucoup d'armes, puisqu'il y avait beaucoup d'armes en circulation, comment ne pas se blesser avec. Mais c'est vrai qu'à partir de 1970, et plus précisément 1977, un groupe un peu plus radical a pris le pouvoir à la NRA et en a fait un objet politique, à savoir qu'il fallait défendre ce droit individuel à posséder une arme et donc à protéger sa famille. Elle n'a pas fait que ça, puisqu'ils ont poussé aussi pour que les législateurs adoptent des lois qui vous permettent, par exemple, de tirer sur quelqu'un qui rentre chez vous et de ne pas être accusé de du moindre crime parce que vous allez vous défendre, donc vous avez eu peur et vous serez innocenté. Donc il y a un changement de paradigme très fort à partir de la fin des années 70 aux États-Unis et aujourd'hui la NRA est arboutée sur cette idée. D'ailleurs, elle essaie de retourner le narratif. On l'a vu avec le discours de Donald Trump et de Ted Cruz à leur convention du 150e anniversaire qui disait que eux aussi aimaient les enfants, mais en réalité, ils les aiment tellement qu'ils sont prêts à les protéger, contrairement aux démocrates qui ne font rien pour cela et même arment les mauvais gars. C'est la fameuse phrase « un bon gars avec un fusil peut arrêter un mauvais gars avec un fusil » qui est devenu le mantra de la NRA et désormais du Parti républicain.
Alors, on se rappelle d'ailleurs que quand Donald Trump était président des États-Unis, il y avait évidemment eu des drames et des fusillades, et notamment dans les écoles, et que la réponse du président américain à l'époque, ça avait été de dire il faudrait peut-être armer les enseignants.
Oui, ça c'est en 2018, juste après Parkland, ça a été sa phrase choc, mais il avait l'habitude de sortir des phrases choc, qui depuis a fait des petits, puisqu'elle est reprise régulièrement. Elle est reprise aujourd'hui, c'est-à-dire comme ce sont des enfants qui ont été touchés à Uvalde, 19 enfants, rappelons-le, de 10 ans, la réponse serait effectivement d'armer les enseignants, serait de mettre un garde dans chaque école, voire plusieurs gardes, de blinder les portes, de blinder les fenêtres et même de ne laisser qu'une porte d'accès et de la verrouiller pendant la journée. C'est-à-dire qu'on fait des écoles une véritable prison et dans
bunker.
L'espoir qu'on va protéger les enfants. Bien sûr, tout cela est vain puisqu'il n'y a pas des tueries que dans les écoles. Les tueries aux États-Unis, on en a eu dans toutes sortes d'établissements, que ce soit des églises, des supermarchés, des synagogues, des mosquées, mais on en a aussi en plein air. Le maximum, c'est 60 morts, c'était à Las Vegas. C'était en plein air, puisque c'était un concert devant un grand hôtel.
Oui.
Ça n'a rien empêché non plus. On ne peut pas blinder l'ensemble des États-Unis, et c'est là où on voit que c'est le serpent qui se mord la queue, et que bien sûr, tout cela est dans une vaste hypocrisie, parce que la réponse est ailleurs, et elle est encore une fois dans ce nombre d'armes qui est colossal aux États-Unis. Vous avez donné des chiffres, et en réalité, personne ne sait exactement combien, ce sont des estimations, c'est peut-être encore plus, qui sait. Mais en tout cas, c'est clair que c'est déjà beaucoup trop.
Alors avec effectivement, on a même du mal à trouver des chiffres fiables pour le nombre d'armes qui circulent aux États-Unis. On va de 200 à 400 millions. On est sur une fourchette quand même qui est... Bon, alors de toute façon, dans les deux cas, c'est des chiffres colossaux, hein, puisque ça revient quasiment à ce qui est une arme par habitant, voire même peut-être même plus. Mais c'est vrai que on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une politisation forte, et on se demande en fait si l'activisme des Républicains, en particulier ceux qui sont financés par la NRA, mais pas que, pour même certains démocrates d'ailleurs, qui défendent quand même cette liberté d'acheter des armes et de les porter de manière assez simple, assez légale. Mais est-ce que ça répond à une radicalisation de l'opinion américaine finalement? Ou est-ce que on n'est pas sur une minorité un peu radicalisée qui veut imposer, eh bien, à l'ensemble de la société sa vision des choses, sa vision du monde?
Non, comme je le disais tout à l'heure, faut bien comprendre la vision américaine, qui est que le droit de posséder une arme est considéré comme une liberté fondamentale. C'est inscrit dans la Constitution, c'est donc un gain qui a été donné à Jefferson quand il a négocié son ralliement à la Constitution américaine. Et ce droit-là est défendu par quasiment tous les Américains. Ils sont 80%, c'est massif à défendre ce droit-là. Mais il y a une partie effectivement un peu plus radicale ou un peu plus attachée à ce droit, qui en a fait un objet politique, qui va beaucoup plus loin et qui pense qu'on peut posséder n'importe quel type d'arme. Alors là, bien sûr, on va répondre qu'il y a une limitation. Vous ne pouvez pas avoir un missile Patriot ou un char blindé dans votre jardin. Ça, c'est interdit. Mais pour ce qui est des armes de guerre, hein, comme l'AR-15 ou l'AK-47, ceux-là ne sont pas limités. Et la Constitution pourrait être interprétée dans un autre sens. Mais depuis la loi LR de 2008, la Cour suprême considère que tout un chacun a le droit de s'armer. Ça veut dire que ce droit, on a le droit d'avoir une arme chez soi. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de se promener avec, sauf dans les États qui l'ont autorisé, comme le Texas. Attention, la Cour suprême est en charge en ce moment d'une affaire supplémentaire, puisqu'il est à New York, a été attaqué devant la Cour suprême, et elle pourrait bien le mois prochain décider que tout un chacun aux États-Unis a le droit de se promener partout avec des armes. C'est même très certainement ce qu'elle va faire. À ce moment-là, le débat qui est déjà hystérique actuellement aux États-Unis va même hystérique, hein, très franchement, il y a des gens qui ont des réactions assez incroyables à propos des armes, et ça va encore s'enflammer davantage. C'est pas dans la pacification, alors que le président a promis qu'il ferait quelque chose, qu'il y a aujourd'hui une loi qui va être proposée au Congrès, en tout cas ces jours-ci, et en tête il y a le sénateur Cornyn, qui est un sénateur républicain, rappelons-le, du Texas. Mais ça n'ira nulle part quand même, comme d'habitude.
Donc, si on vous écoute, si on lit entre les lignes, et même pas entre les lignes d'ailleurs, vous êtes assez pessimiste sur l'évolution et la réaction qu'on peut espérer par rapport à ce nouveau drame, et malgré l'émotion quand même qu'on a senti très très forte, hein, on a eu des mots très forts du président Biden, on a eu des sénateurs de toute obédience qui se sont exprimés dans l'enceinte du Sénat, au Congrès, pour dire que ça n'était plus possible, que le statu quo n'était plus possible, qu'on ne pouvait pas assister de manière passive au meurtre, à l'assassinat de d'enfants et de personnes comme ça à travers ces tueries de masse. Et donc vous nous dites que malgré cette émotion, eh bien, comme lors des précédents drames, on se rappelle Sandy Creek à l'époque de Barack Obama, eh bien probablement les institutions américaines et les rapports de force feront que, eh bien, il ne se passera rien.
Écoutez, j'y ai cru à un moment de ma vie, c'était Sandy Hook justement, c'était en décembre 2010, et depuis 2012, pardon, mais depuis je n'y crois plus, puisqu'à ce moment-là, alors qu'il y a eu 20 enfants qui ont été tués, qui avaient entre 5 et 6 ans, que tout le monde avait vu leurs cadavres sortir de l'école, et que tout le monde pleurait devant sa télé, comme Barack Obama l'a fait, comme de nombreuses personnes politiques l'ont fait, de tous bords d'ailleurs, il n'y a pas que des démocrates. Tout le monde était d'accord à ce moment-là sur la nécessité d'agir. Aujourd'hui encore, on voit qu'il y a des gens de tous bords. Je ne suis pas en train de vous dire que les républicains sont méchants et que les démocrates sont gentils. Il y a simplement un blocage aujourd'hui parce que les électeurs sont dans cette position. Et c'est simple, on peut juste remarquer qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis quelqu'un qui n'a pas été élu parce qu'il était favorable aux armes. Tant qu'on en est là, on peut se dire que rien ne changera. Si jamais les électeurs un jour sanctionnaient ceux qui sont favorables aux armes, à ce moment-là, on pourrait commencer à imaginer une solution. J'ai bien peur qu'on en soit très très loin, en effet.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Éric Brana, d'avoir répondu à nos questions. On n'a pas forcément le moral renforcé quand on entend, quand on vous entend vous. On a également entendu André Caspi dans la première partie de l'émission. Bon, c'est cette société américaine, on l'admire parfois, mais elle nous terrifie aussi par certains côtés. Et c'est vrai que on voulait aborder dans l'émission ces tueries de masse parce que nous, Européens, on est quand même heureusement rarement confronté à, et en tout cas pas dans des proportions aussi importantes, à ces tragédies. Donc merci en tout cas Jean-Éric. Je rappelle que vous êtes maître de conférences sociales et politiques à l'Université Paris 2 à Sas, auteur également de nombreux ouvrages sur les États-Unis et récemment encore d'une biographie de Kamala Harris et de Joe Biden avant. Et merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions.
Merci pour votre invitation.
Et à très bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.